Mardi dernier a eu lieu l'inauguration d'une plaque qui a été fixée à l'extérieur de notre église au niveau du 1 rue de l'Oratoire, plaque qui nous a été donnée en honneur des vaillants héros de notre église en faveur d'enfants juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale. Alors on n'a vraiment pas demandé cette plaque, c'est une reconnaissance qui nous est tombée dessus, si je puis dire. Alors ces vaillants héros étaient des personnes et des familles tout à fait comme nous, qui ont juste fait un peu ce qu'elles pouvaient à un moment donné. Alors vous allez me dire que oui, bon, mais que c'était une circonstance exceptionnelle et que nous ne voyons pas trop comment changer le monde aujourd'hui dans notre situation. Mais précisément, c'est là peut-être que la leçon de morale, si je puis dire, morale toute basique dans la théorie, mais si complexe en réalité, c'est que toute période d'histoire est compliquée. Parce que nous sommes empêtrés dedans, parce que les forces en présence nous dépassent infiniment. Alors c'était l'Empire nazi hier, bien sûr. Aujourd'hui, ça peut être l'économie mondiale, ça peut être le populisme, ça peut être l'intégrisme, ça peut être l'individualisme, l'indifférence. Alors nous ne sommes pas des héros, et nous n'avons absolument pas envie d'être des héros. Ce que nous voulons depuis toujours, c'est tout simplement être bien tranquille, habitant en sécurité, sous sa vigne, et sous son figuier, comme le dit joliment la Bible. Et pourtant, cela peut nous rejoindre dans notre existence quotidienne et devenir, malgré nous, des héros. Comme ce Gédéon, si vous voulez, qui était un humble paysan en train simplement de vanner son blé, dans une période troublée, certes, mais progressivement, il va devenir effectivement ce vaillant héros, il va rassembler les uns, les autres, la population entière finalement, au point qu'ils vont vouloir de faire de lui un roi, ce qu'il va refuser en disant « il n'y a que Dieu seul qui est roi » et il va retourner donc à sa condition simple première. Alors voilà ce récit, c'est dans le chapitre 6 du livre des Juges. Les Israélites firent ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. C'est à cause de Madian que les Israélites se firent des tranchées dans les montagnes, des cavernes et des fortifications. Parce que quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek, avec les Bédouins de l'Orient, il montait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait les productions et les récoltes du pays depuis Gaza jusque tout Israël, ne laissant ni vivres, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Quand ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, ils arrivaient comme une multitude de sauterelles et ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut considérablement appauvri par Madian, et les Israélites crièrent à l'Éternel. Lorsqu'ils crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel leur envoya un prophète qui leur dit « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait jadis monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de l'esclavage. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous vos oppresseurs. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné un pays. Je vous ai dit « Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez pas les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez, mais vous n'avez pas écouté ma voix. » Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit, « mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi est-ce que tout cela nous est arrivé? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. » L'Éternel se tourna vers lui et lui dit, « Va avec cette force que tu as, et tu sauveras Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Gédéon lui répondit, « mon Seigneur, avec quoi sauverai-je Israël? Voici que ma parenté est la plus pauvre en Manassé. Je suis le plus petit dans la maison de mon père. » Alors l'Éternel lui dit, « Mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. » Gédéon lui répondit, « Si j'ai obtenu ta faveur, donne-moi un signe que c'est bien toi qui me parles. Ne t'éloigne pas d'ici, je te prie, jusqu'à ce que je revienne auprès de toi et que je t'apporte mon offrande, que je la dépose devant toi. » L'Éternel dit, « Je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. » Gédéon alla préparer un chevreau, il n'avait rien de plus, et un épha de farine de pain sans levain. Il mit la chair dans une corbeille et le jus dans un pot, il les apporta sous le térébinthe et le présenta. L'ange de Dieu lui dit, « Prends la chair et les pains sans levain, dépose-les sur ce rocher, répands le jus. » Gédéon fit ainsi. L'ange de l'Éternel avança à l'extrémité du bâton qu'il avait à la main. Il toucha la chair et les pains sans levain. Alors du rocher monta un feu qui consuma la chair et les pains sans levain. Et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Gédéon vit que c'était l'ange de l'Éternel. Alors Gédéon dit, « Malheur à moi, Seigneur Éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. » L'Éternel lui dit, « Sois en paix et sois sans crainte, tu ne mourras pas. » Alors Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel en pierre sèche et lui donna pour nom l'Éternel paix. Il existe encore aujourd'hui à Ophra d'Abiézer. Dans la même nuit, l'Éternel lui dit, « Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Démolis l'autel de Baal qui est à ton père et abats le poteau d'Achéra qui est dessus. » Tu bâtiras ensuite avec ces pierres un autel et tu disposeras sur le haut de cet autel le bois du poteau que tu as coupé. Tu prendras le second taureau et tu l'offriras en holocauste. Gédéon prit donc 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit, mais comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il ne le fit pas de jour, il le fit de nuit. Lorsque les gens de la ville se furent levés de bon matin, voici que l'autel de Baal était renversé, le poteau d'Achéra était transformé en petit bois par-dessus, et le second taureau était offert en holocauste sur l'autel que Gédéon avait bâti. Ils se dirent l'un à l'autre, « Qui a fait ça ?» Ils s'informèrent, ils firent des recherches, et on leur dit, « C'est Gédéon, fils de Joas, qui a fait cela avec ses amis. » Alors les gens de la ville dirent à Joas, « Fais sortir ton fils et qu'il meure, car il a renversé l'autel de Baal et a battu le poteau d'Achéra qui était dessus. » Joas répondit à tous ceux qui se tenaient près de lui, « Est-ce à vous de plaider la cause de Baal? Est-ce vous qui allez le sauver? Quiconque plaidera la cause de Baal mourra avant que le matin vienne. Si Baal est un dieu, qu'il plaide lui-même sa cause lorsqu'on a renversé son autel. » Et en ce jour-là, on donna à Gédéon le nom de Yérubal, ce qui veut dire que Baal plaide contre lui, puisqu'il a renversé son autel. Alors ensuite, tout Madian, Amalek et les Bédouins de l'Orient se rassemblèrent, ils passèrent le Jourdain et campèrent dans la vallée de Jizréel. Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel. Il sonna du cor pour rassembler les uns et les autres. Le clan d'Abiézer fut convoqué pour marcher avec lui. Il envoya des messagers dans tout Manassé, qui fut aussi convoqué pour marcher avec lui. Il envoya des messagers dans Aser, dans Zabulon, dans Nephtali, et tout le monde se rassembla avec lui. Ô Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute ma vie. Alors pour laisser le temps de résonner ces paroles anciennes dans notre être, dans notre tête, je vous propose de chanter, enfin je propose avec Thierry de chanter ce « Bienheureux qui t'aime », donc c'est un cantique qu'il nous a choisi, le 289, les 3 strophes de ce cantique « Bienheureux qui t'aime, Jésus bien suprême ». Avec ces mots de saint Augustin, nous prions Dieu pour que, à travers cette histoire ancienne, nous puissions trouver une parole qui vienne de lui. Seigneur mon Dieu, mon unique espérance, exauce-moi, de peur que par lassitude je ne veuille plus te chercher, mais fais que toujours je cherche ardemment ta face. Ô toi, donne-moi la force de te chercher. Toi qui m'as fait te trouver un peu et qui m'as donné l'espérance de te trouver de plus en plus. Devant toi est ma force et ma faiblesse, garde ma force et guéris ma faiblesse. Devant toi est ma science et mon ignorance. Là où tu m'as ouvert déjà, accueille-moi quand je veux entrer. Là où je suis fermé, ouvre-moi quand je viens frapper. Que ce soit de toi que je me souvienne, toi que je comprenne, toi que j'aime. Augmente en moi ces trois dons jusqu'à ce que tu m'aies réformé tout entier. Habiter tranquillement, en sécurité, chacun sous sa vigne et sous son figuier, c'est un peu notre rêve, bien sûr, et c'est effectivement le projet de Dieu pour chacune et chacun d'entre nous, pour chaque famille, pour chaque peuple. La vigne, c'est l'image de notre existence produisant de bons fruits grâce à l'harmonieuse collaboration entre les hommes et Dieu. Et puis le figuier, quant à lui, c'est l'image de la recherche de sens, en particulier dans l'interprétation des Écritures. Image donc d'une vie équilibrée, dans l'action et dans la réflexion, l'une comme l'autre de ces deux dimensions étant irriguées en profondeur par Dieu, appelées par Dieu avec espérance. Donc voilà le projet de Dieu pour nous en quelques mots. Et puis l'existence est plus troublée que cela, finalement, et parfois, nous sommes appelés pour être des héros. L'histoire de Gédéon montre la patience de Dieu pour construire ou reconstruire la vie quand ça déraille sur ce plan. Et donc, cette histoire montre à la fois la force de Dieu, mais aussi la faiblesse de Dieu. Alors, on a pu faire de cette histoire de Gédéon, ou comme bien des histoires, je dirais, miraculeuses, merveilleuses de la Bible, l'histoire de la providence, de la toute-puissance de Dieu pour venir à notre secours. C'est un peu vrai, car effectivement, il y a des signes de l'action de Dieu dans le monde. Les croyants les discernent. Mais c'est un peu court de dire que cette histoire est l'histoire donc de la providence de Dieu, car cette histoire, c'est aussi celle de la faiblesse de Dieu qui n'a pas pu empêcher les méchants de ravager le pays. Et on voit un Dieu qui peine à réaliser ce projet de paix entre les hommes et dans le cœur des hommes, pour que chacun puisse ainsi habiter en sécurité et puisse vraiment s'épanouir bien en forme avec sa vigne et son figuier florissant. Alors on a pu faire de cette page de la Bible une petite histoire de morale appelant chacun à vraiment prendre sa vie en main et l'avenir du monde avec responsabilité. Alors c'est vrai également, bien sûr. Mais c'est très court, car Dans la suite de l'histoire, en réalité, ce ne sont pas les petits actes de Gédéon qui vont sauver le monde. Ce n'est pas Superman. Mais c'est bien une équipe, en fait, constituée de Gédéon et de Dieu. Ou plutôt une équipe constituée par l'Éternel et Gédéon, nous dit ce texte. Ce qui n'est pas la même chose, parce que le mot « Dieu », ça évoque justement un Dieu fort, un Dieu qui n'est pas très loin du Dieu Baal qui est renversé. C'est le même mot, finalement, Baal et Elohim, elle, c'est toujours la racine de la force qui est là. Alors que le mot traduit par l'Éternel désigne la transcendance comme source de l'être, comme source d'inspiration, comme source de pardon et d'accompagnement, source d'élévation, source de croissance, source de résurrection, de résilience, on dirait maintenant. Une équipe, c'est bien cela que dit cette fameuse phrase « L'Éternel est avec toi, vaillant héros ». C'est pas juste « tu seras un héros », c'est « l'Éternel est avec toi ». Alors c'est pas simplement « l'Éternel est avec toi » et puis « laissez faire l'Éternel ». C'est pas juste « toi, vaillant héros » et puis se débrouiller simplement avec ses propres forces, sa solidarité. Mais toute la question posée est ici celle de construire ou de reconstruire cette équipe finalement divino-humaine comme source de paix. Et puis pas simplement une personne et son Dieu, mais on l'a vu progressivement, grâce à cette union entre la personne et l'Éternel, pouvoir être ensemble dans des liens de fraternité, de solidarité qui vont effectivement faire avancer la situation. Alors qu'est-ce qui ne va pas dans la vie au début de cette histoire de Gédéon ? En fait, il n'y a rien qui aille, et les problèmes s'entraînent mutuellement, comme souvent, comme des dominos qui tombent. Alors il y a un problème externe, effectivement, les Madianites pillent les récoltes aussitôt qu'elles sont faites, ne laissant rien à manger au peuple. Alors ils sont une figure de la méchanceté qui peut exister entre nous, bien sûr, mais aussi une figure de tout ce qui fait du mal, de la maladie, des catastrophes, comme cet ouragan peut-être qui est en train de s'avancer vers des gens qui sont déjà pauvres, par exemple à Haïti ou je ne sais où. Alors il y a le deuxième problème qui se présente dans ce texte, c'est un problème moral. Les Hébreux font n'importe quoi, même les uns contre les autres, même les membres d'une même communauté, d'une même famille. Il y a aussi un problème spirituel. Au lieu de faire confiance en l'Éternel, là aussi, ils font preuve de compromission en adorant Baal ou Asherah ou je ne sais quelle autre idole, qui ne sont pas forcément des dieux, mais toutes sortes d'autres choses. Il y a enfin un problème d'estime de soi, finalement, que l'on remarque quand Gédéon répond à Dieu qui essaye de l'encourager. Il dit « bon, en fait, je suis un peu nul ». Donc quatre problèmes couvrant finalement tous les champs de l'humain, toutes les dimensions de l'existence humaine, tant physique que relationnelle, que spirituelle et que psychologique. Malheureusement, c'est souvent le cas car l'être humain n'a pas de cloison étanche dans son être qui pourrait l'empêcher de couler à pic. Bien que les cloisons étanches du Titanic n'ont pas été un grand succès non plus, mais en fait, dans l'être humain, tout est lié finalement. Parfois, ce sont des avalanches d'ennuis externes qui nous cassent le moral, qui font vaciller même notre foi et qui peuvent nous aigrir contre la vie, même contre notre prochain. Parfois, c'est une vie qui est coupée de sa source, qui nous conduit à tricher avec la morale élémentaire et nous devenons alors nocifs, troublant le monde autour de nous. Il peut y avoir toutes sortes de raisons pour que ça bascule. Et par conséquent, quelle que soit l'origine du problème, il nous faut travailler sur tout l'homme de toute façon, et non seulement sur un seul pan de l'existence comme si ça pouvait suffire. Non, ça ne suffit jamais. C'est un des points essentiels finalement de l'anthropologie chrétienne, et donc de l'action chrétienne, de l'éducation chrétienne, de l'entraide que nous voulons avoir. C'est aussi, je dirais, un point essentiel pour travailler sur sa propre santé, pour travailler sur la vie du couple, sur celle de notre société, même celle de notre Église. Un travail qui construise ou qui reconstruise, brique après brique, les fondamentaux et leurs équilibres. Alors on pourrait se demander quelle est la cause première, finalement, du désastre que l'on remarque au début de cette histoire. Ce n'est pas une si bonne question, à mon avis, en réalité, à se poser, parce que peu importe. Alors le texte semble dire que la faute en incombe aux Hébreux eux-mêmes qui, du coup, auraient bien mérité ce qui leur arrive. Le texte dit « Les Israélites firent ce qui est mal aux yeux de l'Éternel ». Mais pourquoi celui qui fait du mal fait du mal? Pourquoi est-ce qu'il se comporte ainsi? Ce n'est en réalité qu'un symptôme de faire le mal, qui peut avoir de multiples raisons, des causes externes ou des troubles internes, et puis la façon que nous avons eu ou que nous avons pu, finalement, de gérer ce qui nous est arrivé, les chances et les malchances que l'on a rencontrées. Alors, il n'est pas toujours utile, je pense, de creuser la question des causes et des responsabilités à ce qu'il ne va pas, mais au moins, je pense, c'est bien d'avoir la sagesse de constater qu'il y a un problème, de ne pas s'aveugler, de le prendre comme un appel à trouver une solution. Alors, je pense que cette attitude face à la vie, c'est un des points de base de l'évangile du Christ qui permet de comprendre sa façon d'être, de comprendre sa théologie, de comprendre sa philosophie de vie, même cet incroyable amour des ennemis qu'il nous prêche. Par exemple, un jour, les disciples de Jésus rencontrent un aveugle sur le bord du chemin. Et ils demandent alors à Jésus la cause de cette maladie, quelle faute a été commise pour qu'il soit frappé de ce malheur. Jésus répond que ce n'est absolument pas la question, mais que de toute façon, tout malheur est une occasion pour nous de faire les œuvres de Dieu, donc de se faire équipe ensemble et équipe avec Dieu pour faire avancer les choses. Donc déjà, se rendre compte qu'il y a un problème. Parfois, c'est une évidence, par exemple, en ce qui concerne le mal extérieur, mais c'est beaucoup moins facile quand le problème est en nous, quand le problème, c'est nous, finalement. C'est un domaine où la clairvoyance est difficile, et je me souviens quand j'étais aumônier des prisons, ou quand on s'occupe de jeunes, mais c'est vrai aussi pour nous-mêmes. On s'auto-justifie très facilement. Alors souvent, nous nous culpabilisons injustement, à l'inverse. Souvent, nous sommes spécialistes pour ne pas voir nos fautes, nous justifions nous-mêmes. Souvent, au contraire, nous sommes désespérés de nous-mêmes. Et donc, c'est le premier point de l'aide de Dieu, avec cette patience, avec ce calme de Dieu que nous voyons ici. Gédéon ne comprend rien, il accuse Dieu, il demande des preuves, des signes, des prodiges avant de faire confiance, mais Dieu reste effectivement avec lui et l'accompagne dans son lent cheminement pas à pas. Et même Dieu se rapproche toujours plus de Gédéon au fur et à mesure où il a plus de mal. Au début, Dieu attend, calme et tranquille, d'avoir une ouverture possible afin de les aider. Ce n'est pas que Dieu les livre dans les mains du malheur, bien sûr, mais il attend une ouverture. Quand enfin les Hébreux attendent son aide, il envoie un ange, puis il se présente lui-même, face à face, il va enfin jusqu'à toucher et bénir, donner des signes, accompagner, aider. Donc, Dieu d'abord patiente. Il patiente 7 ans, nous dit le texte, avant que les Hébreux ne l'appellent à l'aide, et comme toujours dans la Bible, quand il y a un chiffre rond comme le 7, c'est un chiffre donc qui parle d'une qualité de ce temps. 7 ans, c'est le temps d'une création complète jusqu'à la bénédiction, jusqu'à ce que le spirituel puisse vraiment donner vie à une recréation de l'humain. Alors c'est de ce chiffre 7 dont nous avons besoin pour ressusciter, rien de moins qu'une création ou qu'une résurrection de notre être et la bénédiction de Dieu. Et c'est déjà dans ce chiffre, cela nous dit que Dieu est créateur et que sans ce Dieu créateur, ils en seraient restés là, à l'état premier. Et effectivement, sans Dieu, du chaos, il ne sort jamais autre chose que du chaos. C'est ce que nous dit aussi la physique avec le second principe de la thermodynamique. Le chaos va toujours croissant, spontanément, sans qu'il y ait, quand il n'y a pas, une aide extérieure pour mettre un peu d'ordre dans le chaos. Et c'est ici, d'une manière imagée, finalement, ce qui est dit avec ces Hébreux affamés qui cherchent leur salut en s'enfonçant toujours plus profondément sous terre, dans des cavernes, en creusant la terre, en s'enfonçant. Et alors cette image peut aussi nous parler en ce temps d'intégrisme, de repli sur soi, de populisme. Le salut ne passe jamais par le moins bien. Le salut ne passe jamais en s'enfonçant encore plus profondément dans le terrestre. C'est pourquoi Dieu n'est jamais source de mal, de punition, de malheur. C'est par le haut, finalement, qu'il sauve, toujours. Alors les Hébreux s'en souviennent enfin, et au lieu de creuser encore, ils se souviennent de Dieu. Mais ils n'en sont qu'au stade où ils ne voient qu'un problème externe, finalement, à leur désastre. La première chose que leur apporte Dieu, c'est d'apprendre qu'il leur faudra aussi et même d'abord travailler sur leur propre façon d'être. On ne peut pas progresser en continuant à vivre n'importe comment. Et les 10 paroles données par Moïse ne sont pas faites pour nous casser les pieds, mais pour nous aider à avancer. Ces conseils, basiques certes, sont une aide pour que nous puissions nous libérer de notre grand n'importe quoi. Oui, Dieu est source de libération, comme le dit les 10 paroles de Moïse, et il est bon de le prendre pour Dieu et de lui faire place à cette force transcendante qui donne vie, finalement. Et puis, nous dit Moïse, il est bon d'arrêter un peu de tuer son prochain. Il est bon d'arrêter de le calomnier, arrêter de trahir ceux qui nous aiment, arrêter d'être jaloux de son voisin, mais d'avoir plutôt de la gratitude sur ceux qui nous ont apporté quelque chose, ce qu'on peut appeler honorer son père et sa mère. Donc Dieu rappelle qu'il est bon de travailler sur ces fondamentaux du savoir-vivre ensemble, du savoir-être. D'abord, se rendre compte que nous avons besoin d'avancer sur ce plan-là, et puis peut-être demander l'aide de Dieu, justement, pour nous aider, parce que c'est jamais facile de faire sa propre éducation. Qu'avant même de se lever pour combattre le mal qui nous arrive, nous devons d'abord être un peu en forme et pour cela travailler avec Dieu pour créer ou recréer notre être dans sa dimension morale et spirituelle. Être assez en forme soi-même, être assez bien avec les autres, assez solidaire, assez fraternel et puis bien avec Dieu pour savoir sa juste place de chacun, pour faire équipe finalement. Après, nous verrons bien comment faire. De toute façon, le mal pourra alors commencer à trembler. « Mais vous n'avez pas écouté ma voix, dit l'Éternel par la bouche du prophète à ce peuple. Pourtant, je vous avais dit de choisir le bien et non le mal, et que je pouvais vous aider à vous en libérer pour avancer. Et toutes les histoires de la Bible parlent de vous, finalement, de la Genèse à l'Apocalypse. Vous lisez ces histoires comme parlant du passé, mais elles sont présentes pour vous, elles sont futures pour vous. Elles sont à entendre maintenant. Mais vous n'avez pas écouté ma voix, vous n'avez pas compris. Alors Dieu intensifie sa présence et l'ange de l'Éternel est là, aux côtés de Gédéon, qui était en train de peiner et de souffrir sa vie de misère. Il lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. L'Éternel est avec toi. » Après avoir expliqué que la libération d'Égypte et l'entrée en terre promise est à vivre aujourd'hui, cette parole de Dieu que Gédéon reçoit dans la prière, parce que quand on parle d'ange, c'est toujours cela finalement. C'est une citation de la promesse faite à Jacob. Une promesse particulièrement libérante, encourageante, avec déjà un parfum d'évangile. L'Éternel est avec toi. Et cette promesse finalement d'une grâce inconditionnelle, c'est comme un roc sur lequel on peut se tenir ferme. Avec toi, pas simplement avec l'humanité, mais avec toi, avec moi, avec ce Gédéon qui est enfoui dans son pressoir pour se cacher de ses ennemis. Alors c'est pas commode d'aller battre du blé dans un pressoir, c'est-à-dire à l'intérieur, étouffant finalement dans un air surchargé de poussière de paille. Mais voilà, il est enterré. Ce « avec toi » est déjà comme la voix de Dieu, comme quelque chose, comme un souffle, qui est donné au Christ. Toi, tu es mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Aujourd'hui, je t'ai engendré comme mon enfant. Et cela aussi, c'est un don que seule la foi peut nous donner, je pense, celui de notre dignité radicale. Cela peut se concevoir dans un certain sens intellectuellement. Oui, chaque personne est unique et irremplaçable pour l'humanité, mais intellectuellement, ce n'est pas tellement finalement ça qui va nous porter. C'est quelque chose que l'on goûte un peu, peut-être mieux, quand on est aimé. Mais on sait, voilà, les limites de la fidélité de l'homme. Alors c'est quelque chose, je crois, que l'on peut recevoir vraiment quand on se sent aimé par Dieu, sans un mot. Nous le mettre alors dans le cœur, cet amour plus fort que tout, le mettre dans notre cœur, dans la nuit, dans notre nuit. Toi, vaillant héros. Gédéon, qui est en train de battre son blé, caché dans une cave, pourrait penser que c'est pour se moquer de lui, finalement, que Dieu lui dit ça. Et Gédéon lui renvoie la balle en disant, ben oui, à Dieu, qu'il n'a pas fait grand-chose non plus pour les aider. Ah, tu affirmes que tu es avec moi, mais tu n'as rien fait du tout. C'est que dans sa colère, Gédéon n'a pas écouté. Dieu a dit, l'Éternel est avec toi, et avec, c'est avec, c'est en équipe ensemble. Et donc, tant que lui est absent, ça ne fera pas une équipe. Et comment pourrait-ce autrement qu'un travail d'équipe, puisqu'il s'agit d'un travail de création et de recréation de Gédéon déjà, puis de cette équipe constituée d'abord de l'Éternel et de Gédéon, puis cette équipe constituée de Gédéon, de sa famille et de Dieu, en purifiant un peu leur adoration, leur espérance, puis de l'union des tribus qui vont pouvoir travailler ensemble, se fédérer. Mais comment Dieu pourrait-il construire l'humain de force, de l'extérieur seulement ? C'est bien un travail à faire ensemble, en apprenant à se connaître, en commençant à faire confiance, en apprenant la droiture et la fidélité. Ce travail consiste à créer et à recréer deux choses, finalement, vraiment à la base. Une confiance en Dieu et une juste confiance en soi-même. Après, tout est possible. Après, on peut prendre le risque d'aller vers les autres et de faire équipe avec eux. Mais Gédéon doute que l'Éternel soit avec lui et il ne pense pas du tout être jamais un vaillant héros. Et pourtant, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Mais vaillant héros, ça traduit des qualificatifs un peu vagues finalement, c'est joliment dit dans notre traduction. Mais en tout cas, vaillant héros, ça affirme pour le premier terme une capacité et pour le second plutôt une valeur. Gédéon n'est certes pas encore un héros, mais il en a la capacité, nous dit ce texte. Mais le deuxième terme nous dit que même s'il ne devenait pas un héros, il garderait en tout cas sa valeur. On ne peut mieux dire la grâce de Dieu, alors quand Dieu lui dira ensuite « va avec la force que tu as », ce n'est pas un commandement d'un chef, mais c'est un encouragement, un simple et profond encouragement, il n'y a aucun chantage. C'est un « tu peux le faire, mais rien ne t'y oblige, finalement ». Et pourquoi le ferais-tu ? Eh bien, parce que ça sauverait Israël de la main de Madian. Alors, pourquoi nous bougerions-nous ? Parce que le monde pourrait aller mieux si on se bougeait un petit peu. Le monde irait vraiment mieux. Et que nous en sommes capables, et que nous en sommes dignes, et que ce serait beau, et que finalement, nous serions fiers d'avoir fait quelque chose. Gédéon est ainsi passé dans un autre pressoir que celui de Pierre où il s'était réfugié. Le pressoir, c'est dans la Bible une image du jugement de Dieu, d'un jugement qu'est l'amour en fait, parce que, nous explique par exemple Ésaïe, ce jugement de Dieu qui est comme un pressoir, il garde la moindre goutte de bon jus qui est dans la dernière des petits grains, des petites grappes de raisin. Donc un jugement qui garde la moindre goutte de valeur qui est en nous pour en faire quelque chose. Même quand elle est profondément enfouie dans tout ce qui est découragé, ce qui doute, ce qui est souffrant ou endormi, ce qui est idolâtre, ce qui trompe, calomnie, affame ou tue notre frère. Alors Gédéon répond, parce qu'il commence à percuter un peu finalement le truc. « Si donc j'ai trouvé grâce à tes yeux », c'est un tout petit oui, finalement. Un oui plein de doutes encore. Il lui faudra encore des signes, il demandera des signes, des prodiges, des miracles pour comprendre un peu, pour accepter un peu plus. Mais ce tout petit oui, encore plein de doutes, bien entendu, on a le droit de douter, ce petit oui est déjà un vrai oui. Et tout alors devient possible. Amen.